L'invité du grand entretien de la matinale est aujourd'hui chercheur en neurosciences, directeur de recherche à l'INSERM. Il publie aux éditions du Seuil « La fabrique du crétin digital » sous titre « Les dangers des écrans pour nos enfants ». Parents, ados, enfants, intervenez, réagissez au 01 45 24 7000 pour ceux qui se servent encore du téléphone fixe, sinon les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Michel Desmurgés, bonjour.
Bonjour.
Votre livre est nourri de sciences, d'études nombreuses, toute la littérature consacrée à cette question des effets et des dangers des écrans sur les plus jeunes enfants. Vous avez la plume polémique, parfois pamphlétaire. Le titre est une référence à la fabrique du crétin tout court, qui était une charge féroce contre l'école. Votre livre donc empoigne son lecteur et suscitera, j'en suis certain, un débat avec vos pairs. Partons de la thèse, centrale. L'exposition aux écrans pour les plus jeunes, je dis bien pour les plus jeunes, est telle qu'on est désormais face à une question de santé publique. Vous arrivez très vite à une comparaison avec les industries du tabac et du sucre. Est-ce bien de cet ordre ?
Oui, alors cette comparaison, ça veut dire que on a tout un discours assez lénifiant qui nous est tenu maintenant depuis des décennies. Ça a commencé avec la télévision et puis les jeux vidéo, avec des arguments valises. Faut pas être alarmiste. Ça dépend de ce qu'ils en font. Il n'y a pas beaucoup d'études. Voilà, ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'il y avait énormément d'études, que on n'est pas dans un idéal d'utilisation. Évidemment, qu'il peut y avoir des choses positives dans l'usage des écrans. Personne ne veut acheter le numérique, mais là, on est dans une réalité de ce qu'ils utilisent, et quand on regarde l'état de la littérature scientifique, et c'est pour ça que j'ai voulu citer toutes ces études-là, on s'aperçoit que qu'il est pas tout blanc et qu'il est parfois un peu compliqué. Oui.
Alors que disent les études sur le volume horaire, le temps passé par les enfants avant 3 ans, entre 3 et 6 ans et au-delà, le temps passé devant les écrans, quel qu'il soit, ordinateur, smartphone, tablette, télévision.
Alors ce qui est intéressant, c'est que ces études, c'est les mêmes résultats à peu près dans tous les pays comparables de la planète, comparables à la France, c'est pareil aux États-Unis. Dans les pays du Nord, en Allemagne, en Australie, en France, on s'aperçoit que ce temps, il est pas excessif, il est hors norme, il est complètement extravagant. Sur des enfants de 3 ans, 4 ans, on est quasiment à 3 heures par jour.
3 heures par jour d'écran.
3 heures par jour d'écran, oui, tous écrans confondus. Et puis quand on monte sur des enfants de 8-10 ans, on passe quasiment à 5 heures. Et puis sur les ados, mais là ça devient surréaliste, puisqu'on est à entre 6h30 et 6h45 d'utilisation d'écran par jour. Donc on voit bien que ces usages, on peut plus parler d'excès, on peut parler que d'extravagance.
Oui, et donc un problème de santé publique.
Oui, c'est un problème de santé publique parce que ça touche à tout ce qui va fonder notre développement, alors le développement intellectuel, mais aussi le développement émotionnel, le développement sanitaire. Oui.
Voilà, alors précisément, là encore, que disent les études sur les effets d'une telle consommation d'écran et d'images ? À quoi se mesurent pour les enfants les effets néfastes ? Et troubles du sommeil, obésité, trouble de l'attention, c'est cela ?
Oui, alors ce qu'on constate, et alors si on regarde par un petit bout de la lorgnette, on se dit bon, c'est pas très grave, on a un effet isolé. Quand on regarde l'ensemble de cette littérature, on s'aperçoit que c'est des effets convergents, c'est des effets qui vont se combiner les uns aux autres. Alors, dans le cognitif, on a des troubles du langage qui sont évidents, du développement langagier, on a des troubles de l'attention, on a des troubles, vous l'avez dit, du sommeil, mais qui vont impacter sur l'ensemble du reste. Ça agit sur la santé, donc sur l'obésité, ça va agir sur la régulation émotionnelle, notamment encore une fois via le sommeil, ça va agir sur la mémorisation, ça a des effets très forts qui sont sur la réussite scolaire. La réussite scolaire, elle dit pas tout d'un enfant, tout le monde est bien d'accord avec ça. Mmh. Cela étant dit, la réussite scolaire, elle dit un certain nombre de choses de sa structuration cognitive, elle dit un certain nombre de choses de son fonctionnement émotionnel et social, et on s'aperçoit que les écrans vont combiner leur action.
Et Michel Desmurgés, il remplace quoi les écrans ? Le temps d'écran remplace quoi qui devrait être la vie, ou en tout cas qui l'a été longtemps, d'un tout petit enfant ?
Alors si on parle d'un tout petit enfant, il remplace en tout cas des activités qui sont beaucoup plus structurantes et qui sont beaucoup plus nourrissantes pour le cerveau.
Par exemple,
il va remplacer des interactions intrafamiliales, il va remplacer du jeu. Il vaut mieux mettre un enfant tout seul dans un environnement sécurisé avec des jouets, où il va mettre en place un certain nombre de jeux d'activités ludiques, que de le mettre devant un écran pour son développement. Il va toucher aussi au sommeil, on l'a dit, mais vraiment il faut insister là-dessus. Donc chez le jeune enfant, ce qu'on sait, c'est que il y a aucun
bénéfice. Il y a des dettes de sommeil, comme on dit,
lourdes. Il y a des dettes de sommeil qui sont importantes, qui sont liées au fait que, par exemple, que la lumière émise par les écrans va retarder l'endormissement, parce que le cerveau sécrète une hormone qu'on appelle la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, et la lumière des écrans va perturber la sécrétion de cette hormone. Donc l'enfant va dormir plus tard. Il y a des contenus qui sont un peu speed, etc., qui sont un peu parfois que nous on perçoit pas comme violents, mais certains dessins animés le sont perçus par le jeune enfant. Donc ça va raccourcir le sommeil, et puis surtout ça va perturber la qualité du sommeil. Mmh. Ça, c'est des études qui sont très bien enregistrées en enregistrant l'activité électrique du cerveau pendant que l'enfant dort. Oui.
Et vous critiquez durement tout le discours qui consiste à dire, par exemple, si on prend le jeu vidéo, que c'est extrêmement stimulant d'un point de vue cérébral et intellectuel, que les plateformes suscitent une agilité mentale chez les enfants. Bref, qu'elles ont une dimension très très positive. Vous récusez ça ?
Ah, je récuse, et la littérature scientifique
alors
récuse clairement ça.
Les
jeux vidéo, ils ont un effet positif sur un type attentionnel précis, sur ce qu'on appelle l'attention visuelle. C'est-à-dire quand vous jouez aux jeux vidéo, mais à d'autres activités du même genre, vous allez être attentif à tout ce qui se passe dans votre environnement. En gros, ça vous apprend à être distrait au sens premier du terme. C'est le même mot pour l'attention tel que les parents l'entendent, la concentration, c'est-à-dire se concentrer sur une tâche, mais c'est pas le même système attentionnel. Et autant les jeux vidéo peuvent avoir un effet positif sur ce type attentionnel particulier, autant ils ont des effets très négatifs qui sont avérés dans plusieurs études convergentes sur ce qu'on appelle la concentration. Mais je crois qu'il y a un phénomène qui est beaucoup plus profond, c'est-à-dire que le cerveau humain, notamment le cerveau du jeune enfant et de l'adolescent, est pas fait pour subir un bombardement sensoriel constant. C'est-à-dire que, on le sait, dans les crèches, il y a longtemps, on s'aperçoit que quand l'environnement sensoriel était très bruyant ou qu'il était très pénible pour les enfants se développaient mal. Oui. Maintenant, on le sait parce que il y a des expériences qui ont été menées chez l'animal et qui montrent que si vous passez Bob l'éponge, par exemple, ou que vous passez, mais ça peut être fait avec l'odorat, et que vous soumettez ces animaux-là pendant des durées et des intensités comparables à celles sur lesquelles on élève nos enfants, on s'aperçoit qu'ils se développent mal, ces animaux-là. C'est-à-dire qu'on peut très bien contrôler ces études, ils ont des problèmes d'attention, ils ont des problèmes d'hyperactivité, ils ont des problèmes de distractibilité, etc. Donc non seulement on a ces études sur les jeux vidéo, sur le multitasking, faire plusieurs choses à la fois, c'est pareil sur la télévision, ça fait des dizaines d'années, mais en plus on commence à étudier les mécanismes sous-jacents chez l'animal, donc c'est des choses qui sont maintenant très bien comprise.
Michel Desmurgés, si on est face à un problème de santé publique, à une sorte d'épidémie, vu les conséquences que ça peut avoir sur le sommeil, sur l'obésité, sur les troubles de l'attention, sur la capacité même à apprendre, faut-il que l'État intervienne ? Est-ce que vous allez jusque-là ?
Certains pays l'ont fait. Par exemple, à Taïwan, ils considèrent que c'est une maltraitance. Donc, Taïwan a mis en place des mesures législatives avec des amendes pour les parents qui, par exemple, vont exposer des enfants trop jeunes à des écrans ou à trop de quantité d'écrans plus tard. Je suis pas pour une intervention étatique. J'ai pas très envie qu'on vienne me dire à moi comment élever mes enfants. Le seul fait que les gens soient informés et connaissance de cette littérature et qu'elle soit plus largement diffusée me suffirait largement, oui.
Et aux parents qui nous écoutent, que conseillez-vous? Les écrans sous clé, pas plus d'une heure par jour, tout confondu.
Alors, pour les petits, ce qu'on disait, pour les jeunes enfants, il n'y a aucun bénéfice à en avoir. Il y a beaucoup de risques à ne pas en avoir. Et à long terme, il n'y a aucun risque à ne pas les utiliser avant 6 ans. Et
voilà,
il se passe plein de choses.
6 ans, ça c'est l'âge voilà. Que vous donnez.
Alors pour ceux qui me prendraient pour un dangereux malade de dire ça, l'OMS vient de sortir un rapport en disant jusqu'à 5 ans c'est une heure par jour, mais moins c'est mieux. Donc un jour ils arriveront, moins c'est mieux, moins c'est zéro, et on y tend dans beaucoup...
Donc aucun écran jusqu'à 6 ans.
Évidemment, on peut aller au cinéma avec un enfant, regarder un film de temps en temps, mais de façon chronique, non, il y a des études qui montrent des effets négatifs voilà, sur le développement d'un quart d'heure par jour. Nous parlons bien d'écran récréatif, après il peut y avoir des besoins des besoins spécifiques voilà, sur des situations pédagogiques, de remédiation, etc.
Il y a quand même de bons usages des écrans possibles.
Personne ne le nie. Par contre, la réalité, c'est que les usages qu'ils en font vraiment, tous ces usages récréatifs, les séries, les films, les jeux vidéo, tout ça a des effets négatifs. La bonne nouvelle pour les plus grands, c'est que quand on regarde sur la réussite scolaire, ce qui a été mesuré de plus général, jusqu'à une demi-heure par jour d'écran, à condition qu'on préserve le sommeil et que le contenu soit adapté, que ce soit pas hyper violent, par exemple, pour des enfants de 10 ans. Donc au-delà de 6 ans, jusqu'à une demi-heure par jour, il n'y a pas d'effet. Si vous faites une lecture positive de la littérature, vous pouvez aller jusqu'à une heure par jour sans qu'il y ait trop de risques. Au-delà, on commence à avoir des effets.
Et vous dites que le traitement de texte, par exemple, est tout à fait possible d'écrire sur un ordinateur. Il me semble que ce soit moins désirable qu'un jeu vidéo pour des enfants. Non?
Oui. Non, mais après que ça soit désirable, désirable, que les enfants aient envie de jouer, que ce soit plaisant de regarder des films, que ce soit plaisant de jouer aux jeux vidéo, personne ne le discute. La question, c'est que ça prend du temps sur d'autres activités, ça prend du temps sur des activités plus structurantes. Voilà, ça prend du temps sur les interactions humaines, voilà. Et donc, ça coûte. Donc, jusqu'à une heure par jour, il n'y a pas d'effet négatif. On peut considérer une heure, une demi-heure si on est prudent. Mais au-delà, il commence à y avoir des effets. Ce qui est intéressant, c'est que ces effets négatifs, les gens ne les ressentent pas tout le temps. Mais quand on, c'est souvent le cas, mais quand on va les mesurer explicitement, par exemple, sur les jeux vidéo, il y a des études qui sont un peu fourbes éthiquement qu'ils ont faites aux États-Unis. Mais vous prenez deux groupes d'enfants et puis vous leur dites, on va faire une étude sur 4 mois pour voir l'effet des jeux vidéo. La moitié, vous leur dites, c'est des enfants qui n'ont pas de difficultés scolaires, qui vont plutôt bien, qui sont de milieux favorisés, dont les parents sont plutôt réticents à ces usages. Vous leur dites, je vais te filer les jeux vidéo avant pour vous remercier parce qu'on peut vous payer, puis l'autre groupe vous leur filez après et vous vous apercevez qu'il y a des effets sur le temps passé à faire les devoirs, sur la réussite scolaire, sur le sommeil, etc. Et c'est des choses qui sont très contrôlées.
Je le redis, c'est un livre qui s'adresse aux parents, pas seulement, mais aussi, et c'est un livre sur les enfants, les adultes ensuite, ils passent leur vie à faire ce qu'ils veulent sur leurs écrans, leurs tablettes, à regarder des séries ou à jouer aux jeux vidéo. C'est bien sur les enfants que porte votre analyse.
Il faut le repréciser. Il y a beaucoup moins d'études sur les adultes.
Peut-être que vous détestez le jeu vidéo dans l'absolu, c'est sur les enfants.
J'ai pas de problème. Le cerveau de l'adulte, il est cristallisé, tout va bien, il fait ce qu'il veut. Ça veut pas dire que ça a pas des effets négatifs en termes de sédentarité, d'obésité, etc. Il y a assez peu d'études sur les adultes. Il commence à y avoir des études sur les seniors et sur la stimulation mentale, etc.
Mais Michel Desmurger, ce que vous dites là des smartphones, des tablettes, des ordinateurs, n'est-ce pas à peu près ce qu'on disait il y a quelques décennies de la bande dessinée ou du rock'n'roll? Dans un cas, ce sont pas vraiment des livres, la BD. Dans l'autre, c'est une musique du diable. Pourquoi ne pas entrer dans la culture numérique et aussi celle d'une génération qui se confronte à ces outils-là? Une génération, y compris dans les cours d'école, 6, 7, 8 ans, ils ont des intérêts communs qui passent par là.
Alors, il y a des hypothèses qui ont été faites sur la bande dessinée qui se sont révélées idiotes et donc qui ont pas tenu. Je pourrais vous dire que
sur le rock'n'roll, musique du diable,
sur ces trucs-là. Donc voilà, ça a été dit, ça a été idiot. Maintenant, je pourrais vous dire qu'aussi que le discours qu'on nous tient maintenant sur le numérique, on nous l'a tenu sur le cinéma avec Edison qui disait que ça allait révolutionner l'éducation. On nous l'a tenu sur la radio, on nous l'a tenu sur la télévision qui allait amener les meilleurs enseignants dans toutes les classes du monde. Donc ces idées-là,
sans révolution, il y a peut-être eu des usages bénéfiques.
Mais personne ne nie qu'il y a des usages bénéfiques aux écrans, qu'on peut les utiliser dans une certaine mesure de façon bénéfique. La question, c'est pas de savoir ce qui pourrait être positif des écrans. Je veux dire, si vous prenez un gamin, vous l'apprenez à coder, si vous prenez un gamin, vous avez parlé de traitement de texte, si vous prenez... Voilà, personne ne nique qu'il faille revenir à la charrue à bras. La question, c'est la réalité de ce que les enfants font avec. Et la quantité de temps, une heure par jour, c'est colossal. Je veux dire, en 2 ans, vous avez fait une année scolaire complète. Le cumul, prenez un jeune enfant, si vous lui parlez un quart d'heure par jour, ou vous lisez lui une histoire un quart d'heure par jour, il aura entendu quasiment 750 000 mots sur une année cumulée. 750 000 mots, dont des mots qu'on entend assez peu au langage oral, donc ça aura vraiment structuré. Donc ce quart d'heure, un quart d'heure, c'est important, il se place plein de choses cumulées sur un quart d'heure, une demi-heure ou une heure.
Mais est-ce que vous admettez que la culture numérique est une culture? Ou alors que c'est une culture faible, une sous-culture, une culture de crétins, pour reprendre le titre de votre livre.
Il s'agit pas. Je sais bien que voilà.
C'est une vraie question ouverte.
Non, mais c'est la vraie question. Je suis pas là pour hiérarchiser les cultures. Oui, c'est sûrement un type de culture. Après, du point de vue qu'est le mien et du point de vue de la structuration cérébrale, il y a des cultures qui semblent avoir un effet plus positif et plus structurant pour le développement cérébral que d'autres. Voilà. Les écrans. Ils sont faits, le bain numérique, la culture numérique dans laquelle baignent nos enfants, encore une fois, c'est une culture pour laquelle le cerveau, il est vieux, le cerveau de nos enfants. Il a besoin d'humains, il a besoin, la dite tempérance, il a besoin de sommeil. On n'en parle pas, mais il a besoin d'activité physique. Il y a énormément d'études qui montrent que de l'activité physique va dépendre de la structuration cérébrale, la mémorisation, etc. Et les écrans, cette culture numérique telle que vous l'appelez, va sciller tous les piliers de ce développement. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les utiliser. On vient de dire que jusqu'à une demi-heure, une heure par jour, il n'y a pas de problème pour les plus grands. Chez les petits, il n'y a que des effets négatifs. Donc je ne sais pas s'il est bien de les imprégner de cette culture dès qu'ils sont tout petits.
Et il y a énormément d'appels au standard de France Inter, donc on va ouvrir le dialogue. Bonjour Aurore.
Bonjour.
Et bienvenue, on vous écoute.
Merci. Moi, je viens ajouter un commentaire à ce qui est dit ce matin. Je suis pédopsychiatre et je vois depuis une dizaine d'années arriver dans mon bureau de plus en plus d'enfants avec des retards de parole, des jeunes enfants qui sont exposés très tôt aux écrans et qui arrivent à 4 ans en commençant à peine à parler. Je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Demurger sur le fait que c'est un vrai problème de santé publique dont l'État n'a pas encore pris la mesure, avec des phénomènes en cascade de retard d'apprentissage. Mmh. Que c'est des enfants qui...
Et donc ça, vous le voyez, Aurore, et pour vous, c'est directement corrélé au temps passé devant les écrans.
Tout à fait. On voit maintenant tous ces enfants dans la vie de tous les jours, dans le train, 18 mois, devant un téléphone, sur un iPad. Ce sont des enfants qui manipulent plus, n'explorent plus le monde avec les jouets également. Et là, les collègues psychomotriciennes vous diront que là aussi, les enfants sont devenus très pâteaux. Et puis, ça coûte un argent fou à la société. Les parents vont galérer pour trouver de l'orthophonie parce qu'il n'y a plus de place en orthophonie, parce que les demandes sont explosives. Ils vont arriver en CP, ils ne seront pas en mesure d'apprendre à lire. On va demander des AVS. Donc, il faut vraiment que...
Vous décrivez une chaîne de catastrophe,
ah oui,
Aurore.
Ah oui, c'est une chaîne de catastrophe, tout à fait.
Alors, on va soumettre votre témoignage, votre analyse à Michel Demurger.
Oui. Alors, je trouve que ce qui est intéressant, ce qui est vraiment... Merci, Aurore, d'abord. Ce qui est intéressant dans le témoignage d'Aurore, c'est que pendant longtemps, on a pu nous dire, c'est pas si grave, nous tenir ces discours lénifiants dont on parlait. Le problème, c'est que maintenant, ça commence à se voir. Et ça commence à se voir chez tous les gens qui sont en contact avec les enfants, chez les parents. Ça commence à se voir chez les pédiatres, chez les professionnels de santé, chez les orthophonistes, chez les enseignants, et ça commence à devenir difficile de nier ces faits. Des témoignages comme ceux d'Aurore, oui, on en a beaucoup.
Et on en a encore au standard. Bonjour Simon.
Oui, bonjour.
Bienvenue, on vous écoute.
J'ai ma fille qui est en toute petite section de maternelle, elle a 2 ans et demi.
Ah, on vous a perdu.
En début d'année, qu'il pouvait être amené à travailler sur des tablettes, que les tablettes pouvaient servir de support d'apprentissage, support d'atelier. Et donc on est très inquiet. Moi, ma fille, on a fait très attention à ce qu'elle ne soit pas exposée à des écrans. Elle ne sait pas ce que c'est qu'une télé. Et pourtant, moi, je travaille à la télévision, donc je fais vraiment très attention à ça. Moi, je suis inquiet. Est-ce que ça fait partie du programme? Est-ce que c'est normal qu'à 2 ans et demi, on expose les enfants à des tablettes à l'école?
Merci beaucoup, Simon, pour cette question. Il y en a énormément sur ce thème. Réponse Michel Demurger.
Alors oui, ça fait partie du programme et l'introduction de ces outils numériques dès la maternelle. Ça dépend ce qu'il y a dedans. Honnêtement, moi, d'un point de vue personnel, ça me semble pas souhaitable. On peut discuter de ce qu'il faut enseigner aux enfants des usages numériques. Est-ce qu'il faut leur enseigner le traitement de texte? Est-ce qu'il faut leur enseigner, comme à la maternelle, comme c'est dans le programme, l'utilisation d'une caméra numérique? J'en suis pas très sûr. On peut s'interroger
sur... Est-ce qu'il faut interdire les écrans à l'école jusqu'à 6 ans, 10 ans? Est-ce qu'il faut que l'école soit un sanctuaire fermé où on cultive ce truc ringard qui est la familiarité avec le livre et la lecture silencieuse?
Je dirais ça dépend des enfants.
Qu'en pensez-vous?
Je pense qu'il y a des enfants. Il y a un certain nombre d'études qui montrent que sur des enfants à besoin particulier ou dits à besoin particulier, les écrans peuvent être une médiation qui peut dans certains cas être intéressante et importante. C'est les seuls cas à ma connaissance d'usage vraiment positif de ces outils-là. Donc les interdire, non. Savoir pourquoi on les utilise, oui. Les utiliser pour les bonnes raisons pédagogiques, parce que l'enseignant, il a vraiment un besoin sur un truc particulier, oui. Les utiliser parce que ça permet d'éteindre les élèves et ça permet en partie, pour des raisons économiques, de pallier au problème de recrutement des enseignants, non.
On a une question sur l'application d'Emmanuel. 3 heures d'écran par jour pour les enfants de 3 ans, tellement excessif. Question suivante, dit-il. Quels écarts et quelles disparités au sein de cette classe d'âge? Avez-vous des données, notamment sur la corrélation entre ce temps devant les écrans et la classe sociale de la famille, ou d'autres informations sur la monoparentalité?
Alors sur la monoparentalité, non, pas à ma connaissance. Il n'y a pas d'études précises.
Et sur la classe sociale?
Sur la classe sociale, oui. Alors il y a un certain nombre de paramètres qui sont importants. La classe sociale est un paramètre extrêmement important. En gros, chez les petits de cet âge-là, c'est un tiers qui les utilise pas. En gros, avant 2 ans, 3 ans, c'est un tiers qui les utilise pas, un tiers qui les utilise quotidiennement et un tiers qui les utilise de façon plus ou moins aléatoire. Il y a un effet fort de la classe sociale, c'est-à-dire plus les enfants sont d'un milieu défavorisé, plus ils sont exposés. Il y a un effet fort de la disponibilité. Si vous mettez par exemple ces écrans dans la chambre et plus il y en a dans la maison, plus les enfants les utilisent. Il y a un effet fort, j'en suis désolé, de l'usage parental. C'est-à-dire plus les parents les utilisent et plus les enfants nous voient les utiliser.
C'est dur de faire la morale quand on est en train d'envoyer un SMS. Hein.
Exactement. Et puis plus on les utilise nous-mêmes, plus on a une opinion positive de ces usages-là. Donc il y a un certain nombre de facteurs, effectivement. Il y a un facteur qui est important, c'est à tous les âges, c'est les règles. Voilà, le fait de poser certaines règles, pas le matin avant d'aller à l'école, pas le soir avant de se coucher, pas quand on est ensemble, etc., permet de diminuer.
Oui, c'est-à-dire apprendre aussi à se servir de ces outils, apprendre à ses enfants à limiter le temps. Bonjour Laurence.
Bonjour, merci de prendre mon appel.
Allez-y, on vous écoute.
Moi, je voulais intervenir, si vous voulez. Nous, en tant que parents, on est vraiment conscients du danger que les écrans représentent pour nos enfants. Mais la complexité, c'est comment ça se passe concrètement à la maison. Moi, j'ai un petit garçon qui a 10 ans. En ce moment, pendant les vacances, je pense qu'on dépasse 4 à 5 heures par jour d'écran, sachant que nous, les parents, on travaille. Et quand on lui explique, si vous voulez, que c'est dangereux pour lui, il est très intelligent, ça fonctionne très bien à l'école. On a l'impression qu'il ne comprend pas, c'est-à-dire qu'il fait des colères, qu'il fait des crises. Moi, j'ai l'impression, si vous voulez, que ça le dépasse. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la raison. Et de l'autre côté, je vois bien que physiquement, c'est compliqué pour lui de se passer des écrans. Donc, concrètement, nous, parents, comment on fait, si vous voulez? On essaie de lui dire, écoute, on va diminuer le temps. Et ce soir, en contrepartie, on essaie de faire un foot, on essaie de faire un jeu de société tous ensemble. On va essayer de lire tous les deux sur le canapé. Mais concrètement, je vois bien que ça ne marche pas et qu'il fait des colères et que ça le domine, en fait, que ça le dépasse totalement. Voilà.
Merci,
moi,
Laurence.
Question, c'est comment on fait, quoi.
Comment on fait? Merci, Laurence, pour ce témoignage. Je vais donner la parole tout de suite à Élodie. Bonjour.
Oui, bonjour. Je voulais apporter mon témoignage parce que moi, suite à l'intervention de votre invité dans une autre émission de France Inter, c'était à peu près il y a un mois et demi, j'ai eu très très peur. J'ai 2 enfants de 4 et 9 ans. Celui de 9 ans, il regardait à peu près des dessins animés pendant 8 heures par semaine et le petit 3-4 heures. Voilà. Et du coup, j'ai réduit de façon drastique l'exposition.
Et ça s'est bien passé ou pas? Parce que vous avez dû entendre Laurence pour laquelle c'est très compliqué. Comment ça s'est passé?
Ça s'est bien passé. Je pensais vraiment que ça engendrerait plein de conflits et pas du tout. Le petit m'en parle quasiment plus. Là, c'est zéro maintenant. Zéro par semaine, sauf exceptionnel. Et le grand, il doit regarder.
C'est possible.
Ils lisent plus. Il y a plus d'interactions entre eux.
Ne soupirez pas, Élodie, c'est une bonne nouvelle. Je transmets, merci Élodie, l'ensemble de ces deux témoignages à Michel Desmurger. Très grosse difficulté, colère quand on demande à un enfant d'arrêter ou de réduire le temps d'écran, c'était Laurence, ou alors plutôt facile, fluide et heureux chez Élodie?
Alors, je crois que plus on s'y prend tôt et plus c'est facile, plus les enfants sont habitués tôt et plus c'est difficile, effectivement, plus c'est difficile de les diminuer. Après, moi, dire aux parents comment faut qu'il fasse, honnêtement, je sais pas, j'en suis bien incapable.
Il faut qu'ils lisent votre livre, en tout cas.
Mais le plus simple, c'est d'expliquer aux enfants ce que disait Élodie, c'est ce que rapportent quand même beaucoup de parents, c'est que il y a toujours une période difficile parce qu'il faut réorganiser l'écologie familiale. Donc il y a toujours un temps de tension qui dure une semaine, un mois. Il y a une étude sur la télé qui montre, ancienne, mais qui montre que les gens mettaient plus ou moins de temps à faire réparer leur télé, et la première semaine, c'était vraiment difficile, ils revenaient la chercher tout de suite. Au bout de 2 mois, il y en a plus de la moitié qui revenaient plus jamais la chercher. Donc, il faut un peu de temps. Il faut surtout mettre à disposition des enfants d'autres activités. Voilà. Parce que.
Oui, et à vous lire, même l'ennui semble plus fécond que.
Ah, l'ennui est extrêmement fécond pour le développement et pour l'enfant.
Merci beaucoup, en tout cas, Michel Desmurger. La fabrique du crétin digital, les dangers des écrans pour nos enfants. Je l'ai dit, le livre est polémique. C'est un essai à l'estomac,
pas pour faire peur aux gens.
Non,
je suis désolé.
Enfin, ça nous secoue. Si on est parents, ça nous secoue. Merci beaucoup d'avoir été au micro d'Inter.